20h, le journal du classique, avec Laure Maison.
Bonsoir à tous, c'est à l'actualité discographique, la rentrée discographique que nous allons nous intéresser ce soir, en compagnie de la violoncelliste Claire Lanquet et de la gambiste Aude-Marie Pilose, membre de l'excellent ensemble Emiolia, dont un tout nouvel enregistrement vient de paraître sous le label Parati. Un enregistrement qui nous permet de découvrir la musique fascinante d'un compositeur oublié du baroque italien, Giorgio Antoniotto, auteur entre autres et presque essentiellement de sonates pour violoncelle et basse continue. Alors si ce nom d'Antoniotto nous est complètement inconnu, il a suscité l'intérêt, la curiosité des musiciens d'Emiolia dans la mesure où ce Milanais d'origine est passé par Calais, port d'attache de l'ensemble Emiolia, comme me l'ont raconté Claire Lanquet et Aude-Marie Pilose, avec qui nous allons donc découvrir l'univers de ce compositeur Giorgio Antoniotto.
Alors en fait, donc l'ensemble Emiolia est en résidence dans le Beau Théâtre de Calais depuis 2 ans. Et donc c'est vrai qu'on cherchait des programmes qui soient aussi un petit peu en rapport avec cette ville de Calais qui nous accueille et qui nous offre beaucoup de possibilités artistiquement parlant. Et donc, à force de chercher, de fouiller, de lire et puis d'être curieux, je suis tombée sur ce nom de Giorgio Antoniotto, qui en fait est décédé à Calais en 1761. Et moi, je suis violoncelliste, donc j'ai vu qu'il avait écrit uniquement en fait un opus de sonates pour violoncelle, ce qui est assez incroyable aussi parce qu'il a très peu écrit. Je me suis dit allons regarder un petit peu ce que fait ce Giorgio. Comment est la musique? Parce qu'elle était complètement inconnue, donc je savais pas si c'était bien, pas bien. Puis on l'a lu avec mes amis et collègues.
On s'est retrouvés notamment, je me souviens d'une matinée à Paris, Claire m'appelle en me disant « Il y a de la musique à lire, là, passe à la maison, on se retrouve pour déchiffrer 12 sonates. » Elle me dit « Je sais pas trop, les 6 premières sont marquées à violoncello solo et les 6 dernières pour 2 violoncelles ou 2 viols de gambe. Prends ta viol et viens. » Et du coup, c'est vrai qu'on a lu les sonates comme ça une première fois. Il y en a qui nous ont tout de suite plu, dans lequel l'intérêt musical était vraiment indéniable. Et il y a certains mouvements qui ont demandé un peu plus de travail pour l'ornementation, dans les mouvements lents. Comprendre un peu ce qui se passait harmoniquement aussi, parce que le langage harmonique est assez novateur dans ces sonates.
Et puis l'aventure était partie comme ça.
Découvre donc aujourd'hui, grâce à vous, Claire Lanquet et Aude-Marie Pilose, et à vos partenaires de l'ensemble Emiolia, cette musique, ces sonates pour violoncelle et basse continue de Giorgio Antoniotto, ou Antoniotti, puisqu'il signait parfois cette façon, un compositeur dont on sait peu de choses. Alors, il est mort à Calais, mais il est né à Milan, il est issu d'une famille noble de Milan, il a été ruiné, il a connu la vie d'errance à travers l'Europe, il a été officier, il a eu une vie très romanesque.
Ben oui, très romanesque. C'est un personnage très mystérieux parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose non plus de lui. Il a quand même écrit cet opus de sonates à 50 ans passés. Il n'a jamais rien écrit avant. Ça a été un théoricien de la musique. Je pense qu'il avait, du fait de ses origines, en fait, donc c'est une très riche famille, notamment du Milanais, mais surtout d'Italie, puisqu'il y a eu beaucoup de gens de sa famille qui ont occupé des fonctions assez hautes, comme doge de Venise, par exemple. Donc, c'était vraiment une grosse famille assez ancestrale en Italie. Il devait avoir pas mal d'appui dans toute l'Europe, dans les cours princières, dans les cours royales. De cette façon, en fait, il a vécu certainement une vie d'errance, mais d'errance aisée, j'ai envie de dire, de par ses origines. C'est probablement ce qui lui a permis de faire autant de choses, d'avoir autant de centres d'intérêt, d'activité aussi.
Et est-ce qu'on sent dans sa musique le fait qu'il ait beaucoup voyagé? Est-ce qu'on sent qu'il s'est imprégné des courants stylistiques de l'époque, de ces différentes cours européennes?
Moi, je trouve, on sent.
C'est une musique assez colorée.
Oui,
hein.
C'est une musique très chatoyante, très colorée. Donc, on sent clairement l'Italie, ça c'est évident, notamment dans les mouvements lents. Je trouve que dans les adagi, les largos aussi, ça appelle tellement à l'ornementation italienne que c'est clairement italien. Après, il y a quand même des rythmes assez dansés. Il y a quelques rythmes à la française aussi.
Il y a quelques rythmes à la française, effectivement, dans les premiers mouvements.
Ouais, qui sont assez marqués. Et puis, je pense qu'il y a un style Antoniotto, harmoniquement parlant, quand même, on est sur parfois des relations harmoniques quand même très étranges et très abruptes. Parfois, on s'est même demandé, hein, Audemars, s'il n'y avait pas des erreurs.
Oui. L'harmonie est assez abrupte dans certaines sonates. C'est vrai que quand on est à la basse continue, donc on voit une altération qui arrive, on se dit mais c'est pas possible. Comment on réalise ça? Alors François au clavecin nous disait je suis plutôt comme ça. Et c'est vrai qu'on a toujours réussi à retomber sur nos pattes. Mais
oui, parce qu'il faut rappeler qu'au continuo, tout n'est pas écrit. Il faut inventer,
exactement.
Improviser.
Ouais. La réalisation change à chaque prise. Enfin, quand on fait un disque, c'est vrai que les... Bon, c'est moins vrai pour la basse, hein. La basse, quand on a un rôle de basse, mais les instruments harmoniques, le théorbe, la guitare et les clavecins ont vraiment ce rôle d'improvisation.
Alors Giorgio Antoniotto a écrit ses sonates pour violoncelle et basse continue. On peut le considérer comme l'un des premiers compositeurs à avoir mis en valeur le violoncelle, à lui avoir permis de s'émanciper, de devenir un instrument soliste, Claire Lanquet.
Alors, l'histoire du violoncelle, c'est plutôt donc à la fin du XVIIe siècle dans la région de Bologne, où il y a des compositeurs comme Gabrielli, par exemple, qui ont commencé à écrire pour le violoncelle solo parce que ces compositeurs-là avaient eu l'idée de rapetisser la taille du violoncelle, qui avait la taille d'une grosse basse de violon. Donc, c'est pas forcément évident pour la virtuosité. On a quand même beaucoup plus de mal à être très virtuose sur le violoncelle que sur le violon. Donc, toute cette école de Bologne, à la fin du XVIIe, commencé à écrire ce qu'on appelle des ricercare. Ricercare en italien, c'est la recherche. Donc, il y a des petites pièces solistes pour le violoncelle seul. Et là, le violoncelle commence à s'émanciper un petit peu de son rôle de basse pour devenir le grand instrument soliste qu'il est devenu après, plutôt au XIXe siècle. Antoniotto, c'est un peu plus tardif. Par contre, ça fait partie des premières sonates vraiment virtuoses pour le violoncelle.
Et ceci dit, Antoniotto devait trouver que le violoncelle manquait de répertoire. On sait qu'il était d'abord violoniste et que suite à une blessure à la main qu'il aurait reçue lors d'un duel, il est venu au violoncelle. Et à partant de là, il a écrit ses sonates. Donc, il devait trouver le répertoire un peu restreint.
Oui.
Et pour amener sa contribution au répertoire.
Parce qu'on a eu Vivaldi aussi, quand même.
Oui, c'est vrai.
Ses 9 opus de sonates. Et les sonates de Antoniotto sont un peu plus virtuoses quand même que celles de Vivaldi.
Et on sent que Antoniotto maîtrisait l'instrument, le violoncelle. Vous, en tant que violoncelliste, vous sentez au niveau des doigts, au niveau de votre interprétation?
Alors, pour être...
C'est très, très, très difficile.
Tout à fait honnête, j'ai beaucoup travaillé.
Une chose est sûre, c'est vrai que les 6 dernières sonates, il les propose pour 2 violoncelles ou pour 2 viols de gambe. Personnellement, j'ai l'impression que c'est plus quand même une écriture violoncellistique que violistique.
Oui, je pense que c'était un procédé éditorial d'écrire ça aussi sur
Parce qu'il était probablement en Angleterre, donc un pays encore assez attaché à la viole, mais je pense qu'il les a écrites sur le violoncelle. Enfin, après.
On sent quand même qu'il venait du violon. C'est-à-dire que, donc, d'un
c'est
instrument
assez violonistique
très
comme virtuose.
Tout à fait. Ouais. Même des procédés de bariolage, qu'à cette époque-là, on ne trouve pas trop dans les sonates solistes pour violoncelle, et qu'on trouve beaucoup dans les sonates italiennes pour violon, notamment. Donc, oui, on sent tout ça, oui.
Avec un beau mariage entre le violoncelle et la viole de gambe dans ses sonates et dans certains mouvements, je pense à certains mouvements lents où on entend comme un dialogue entre vous deux, Claire Lanquet et Audemars Piloz.
Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas choisi la version, enfin Claire n'a pas choisi la version à 2 violoncelles, donc elle m'a appelée pour ça. Et c'est vrai qu'on a trouvé vraiment l'idée de la différence de timbre très intéressante pour faire notamment sortir les 2 lignes des instruments.
Thank you.
Voilà, donc la musique de Giorgio Antonioto, ses sonates pour violoncelle et basse continue par l'ensemble Emiolia, avec vous Claire Lanquet et Aude-Marie Piloz. Un enregistrement qui vient de paraître chez Parati, qui témoigne de votre curiosité, de la démarche de votre ensemble. C'est un ensemble qui a, je crois, 9 ans d'existence.
Tout à fait, ouais.
Et qui nous a permis de découvrir certains compositeurs. Je pense à Marie-Alexandre Guénin, un compositeur qui est originaire de Maubeuge, puisque vous êtes basé dans le Nord. Cela fait partie de votre démarche de mettre en avant, alors, entre autres, le répertoire italien à travers Antonioto, mais aussi celui de ses compositeurs du Nord, et notamment de certains qui sont tombés dans l'oubli, comme ce Guénin.
Oui, tout à fait. On a vraiment une démarche dès le début de la création de l'ensemble de curiosité, en fait, envers des répertoires qui sont méconnus, qui sont pas souvent mis en avant. Ce qu'on appelle, dans le cas de Guénin, c'est le cas, un petit maître. On aime bien cette idée de revaloriser ces personnages secondaires. C'est un petit peu la petite histoire dans la grande. Et ça permet aussi de concevoir des programmes qui racontent quelque chose. Et puis, moi je suis nordiste, hein, je suis née dans le Nord. L'ensemble a été basé dans cette région de l'Avesnois. Maintenant, nous sommes à Calais, au Grand Théâtre. C'était important pour moi aussi de mettre en avant tout ce qui relève du patrimoine immatériel de cette région. Le patrimoine matériel a été dévasté aussi par les guerres, etc. Il reste quand même beaucoup de choses de ce patrimoine immatériel, dont la musique, qui a un intérêt à être mise en avant et redécouverte.
Qu'on redécouvre grâce à vous. Pourquoi ce nom d'Emiolia pour votre ensemble? Qu'est-ce qu'il signifie?
Une émiole, c'est un terme rythmique qui est assez propre à la musique baroque que nous faisons. Donc c'est un rapport rythmique, en fait. Et Emiolia, nous l'avons italianisé parce que nous aimons beaucoup la musique italienne. Donc voilà, c'était une petite référence à cela. Et puis beaucoup des musiciens de l'ensemble, pas sur le présent disque, mais dans d'autres programmes, sont italiens aussi. Et donc, du coup, c'est un petit clin d'œil à cette double origine de l'ensemble.
Et puis c'est un très joli nom, très agréable en tout cas à prononcer. Le nouvel enregistrement d'Emiolia sorti chez Parati, c'est donc la musique de Giorgio Antonioto, et des rendez-vous sur scène, des concerts à venir dans quelques jours.
Oui, notamment le 17 septembre à Calais, lors des Journées du Patrimoine, au Grand Théâtre.
Ce seront des promenades musicales avec petits concerts Antonioto à la clé, donc l'après-midi. Donc on a une belle saison à Calais cette année. On accueille notamment au mois de novembre le baryton Fulvio Zanasi, et puis un Didon est né au mois de février avec Farid Berki et la compagnie Melting Spot. Un concert jeune public en février qui s'appelle Baroque Kids. Et puis au mois de mai, un coffee house, donc autour de la musique shakespearienne, de la grande tradition des coffee house à Londres à cette époque-là.
Avec de la musique anglaise, alors?
Voilà, musique anglaise, et puis des chansons aussi un petit peu.
Avec la viole de gambe, les Anglais.
Il y aura probablement de la viole
dans
de gambe.
Dans la viole de gambe.
Voilà. Et puis après, on a d'autres rendez-vous, essentiellement effectivement dans le Nord, dont notre petite tournée nordiste au mois de décembre de Marie.
Tout avec à fait, assortie de conférences sur le compositeur Giorgio Antonioto.
Tout est sur notre site internet.
Et bien, on suivra cela avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Claire Lanquet et Aude-Marie Piloz d'être passées nous voir. Merci infiniment.
Merci. Thank you.
Un nouvel extrait de ses sonates pour violoncelle et basse continue de Giorgio Antonioto, qui figure donc au programme de cet enregistrement de l'ensemble Emiolia, qui vient de paraître sous le label Parati.
Le journal du classique, avec Laure Maison.
Alors depuis hier, on s'intéresse à la rentrée des orchestres, la reprise des saisons, la rentrée discographique. Mais le mois de septembre est encore propice à quelques beaux festivals qui nous permettent de prolonger l'esprit des vacances, de goûter à la musique dans quelques lieux enchanteurs. C'est ainsi que débute demain le Festival Piano Jacobin à Toulouse, où nous vous emmènerons d'ailleurs, puisque nous diffuserons en direct le récital d'ouverture avec Elisabeth Leonskaya, dans un programme entièrement dédié à Schubert. Piano au Jacobin se poursuivra tout au long du mois de septembre, accueillera quelques autres pointures du piano, comme Arkady Volodo, Simon Dinnerstein ou encore Nicolas Angelich, mais aussi la nouvelle génération, incarnée entre autres cette année par Alexandre Kantorov ou encore Julien Brocal. Julien Brocal qui nous a tellement touchés la saison passée avec son premier enregistrement dédié à Chopin, au prélude de Chopin notamment. Quelques préludes de Frédéric Chopin sous les doigts de Julien Brocal. Julien Brocal jouera donc Chopin, la deuxième sonate, mais aussi Schumann et Bortkiewicz, mardi 19 septembre au cloître des Jacobins dans le cadre du festival Piano aux Jacobins, festival qui débute demain et où nous serons justement demain dès 20h pour vous permettre de profiter du récital d'ouverture avec la grande et si touchante Elisabeth Leonskaya. Je vous dis donc à demain en direct de Toulouse et je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel.